Vous êtes une belle assemblée. Très heureux d'être avec vous, très heureux d'être avec vous depuis jeudi. C'est le quatrième temps fort que je vis. Est-ce que tu peux projeter directement la première diapo ? La diapo suivante, alors. Voilà, je vais faire comme ça. C'était la commande de ces quelques jours ensemble, un encouragement pour votre communauté. Vous étiez nombreux lors des deux premières soirées. Vous encouragez, discernez les temps, là où on se trouve dans l'histoire, et nous encourager, vous encourager à être sel et lumière dans une société post-chrétienne. Alors, je ne vais pas refaire tout l'enseignement, mais pour dire les choses un peu rapidement, c'est comprendre qu'on est effectivement dans un temps un peu carrefour. La société évolue et de manière rapide, comme une accélération, peut-être dans l'année écoulée, avec un certain nombre de dispositions juridiques. Je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, je pense à la question de la loi fin de vie. On a parlé, j'ai eu des remontées, je sais que vous avez sans doute été beaucoup touchés, comme beaucoup de chrétiens, par la cérémonie des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez, cet été, on a eu beaucoup de remontées et un certain nombre d'inquiétudes et de peurs, finalement. Cette société nous semble étrangère et on sent un écart, une dissonance, quelque chose, une fracture, une société qui ne connaît plus Dieu, qui sent ténèbres. Et quelle est notre place? Et quel est notre avenir? Et quelle société on laisse à nos enfants? Et comment ils vont tenir bon dans la foi dans cette société-là? L'expression d'une peur, d'une inquiétude et qui est légitime et qui est bonne et que l'on comprend. Et en même temps, il ne faut pas que je refasse la prédication, l'enseignement de jeudi, hein, mais en même temps, et j'y suis allé un peu fort, mais je dis, mais écoutez les amis, et je vous le redis ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous identifions le monde comme étant monde et que nous soyons l'Église dans ce monde, lumière dans l'obscurité. Et nous nous sommes rappelés, voilà, que cette société qui se paganise, qui redevient païenne, vraiment c'est le mouvement de ces dernières années, de ces 50 dernières années, eh bien, c'est du coup le même monde qu'il y a 2000 ans, une société païenne. Le même monde où l'Évangile a brillé et s'est répandu comme une traînée de poudre dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Je crois dans une société post-chrétienne que Dieu est en train de faire à l'échelle mondiale et en Occident en particulier, de susciter un pré-réveil. Et il va se manifester dans les ténèbres, authentifier son message par des signes, des prodiges, par une action spécifique auprès d'hommes et de femmes qui ont soif de Dieu, qui ne connaissent rien de Dieu et qui ont tout à découvrir dans une société où tout est déconstruit. La lumière de l'Évangile va briller à nouveau, j'en suis absolument convaincu. Le message de jeudi soir était ça, reprenant la lettre aux exilés que Dieu écrit par l'entremise de son prophète Jérémie, au peuple de Dieu qui a été déporté à Babylone, pour ceux qui ont ce récit dans la tête, et voilà, et qui étaient là jeudi, se rappeler que dans ce contexte-là, nous le sommes aujourd'hui, en exil, dans une société étrangère, qui ne connaît pas Dieu. Et dans cette société-là, Dieu adresse à son peuple et à nous aujourd'hui, et on est passé par un Pierre, cette invitation à ne pas avoir peur, à ne pas se recroqueviller, de ne pas se mettre à l'écart, mais de se tenir debout et de rechercher le bien-être de la ville, du pays dans lequel il nous a placés, de bâtir, de construire, d'habiter, d'aller vers ce monde que Dieu aime, vers lequel Jésus nous a envoyés. Une invitation à se tenir debout, à ouvrir le cœur plutôt qu'avoir peur et condamner. Allez, diapo suivante s'il te plaît. La deuxième soirée, on a insisté parce que ces peurs et ces intimidations que la société parfois nous adresse, et on a bien vu, et je sais que tout le monde le vit d'une manière ou d'une autre, dans le cadre d'une société post-chrétienne, laïque, il y a ce grand discours, et vous l'entendez partout, et dans les médias, etc., le service d'une laïcité mal comprise, falsifiée, l'idée que la laïcité et le cadre de notre société nous obligeraient, nous croyants, à nous taire, à garder notre foi dans le fort intérieur, dans le cœur ou entre les quatre murs de nos églises, mais surtout que ça ne sorte pas ailleurs. On a travaillé à une soirée libre de le dire, osez témoigner de sa foi dans le monde d'aujourd'hui, l'Évangile avec vous, partout, soyez témoins de l'Évangile en parole et en acte, dans toutes les sphères de la société. Allez-y, décomplexez. La loi est avec vous. On ne peut pas faire tout ce qu'on a fait vendredi soir. Fallait être là. Mais ce que je peux quand même pour vous, vous encourager à acheter une série de livrets super bien faites. Vous avez la librairie Certitude qui se déplace pour vous. C'est hyper bien fait. C'est le CNEF qui le fait. Une série libre de le dire, justement. Libre de le dire votre foi au travail. Libre de le dire à l'église même. Là où parfois on intériorise nos convictions, on a peur de dire sur des sujets un petit peu chauds. On est libre de dire l'évangile partout et même à l'église, libre de dire à l'école et à l'université, libre de le dire dans l'espace public, allez-y, partout, aucun lieu n'est interdit à l'évangile. Libre de le dire à l'université, c'était le dernier tome. Puis un petit livre, il n'est pas arrivé, il a été livré à la librairie Certitude à Haguenau, je ne sais plus trop où. Bref, il aurait dû être là, mais un petit livre que j'ai écrit sur la laïcité. On m'a dit de vous dire qu'il vous serait livré prochainement, je ne sais pas comment. Bref, je crois qu'il n'est pas trop mal ce petit bouquin qui se lit vite. C'était l'objet de la soirée de vendredi soir. Donc vous comprenez que pendant deux soirées, l'accent était mis sur l'importance d'oser en tant que disciple de Jésus-Christ, partout là où vous êtes, où vous habitez, où vous travaillez, dans toutes les sphères de la société, à être témoin, je reprends, en parole et en acte, une fois incarné, décomplexé, une société qui sort de ses murs, une église qui sort de ses murs et qui va à l'endroit. Eh bien aujourd'hui, tu peux reprendre la première diapo, j'ai mis les choses dans le mauvais ordre. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va travailler ce dimanche matin plutôt sur la communauté que vous formez. Hein ? On a parlé jeudi soir d'église dispersée, là où on est envoyé en semaine dans nos lieux de vie. On va parler aujourd'hui de la communauté rassemblée. Et les quatre marques, hein, pour ceux qui étaient là vendredi soir, il y avait le quadrilatère de la laïcité, là c'est le quadrilatère de l'Église. Les quatre marques de l'Église dans le monde à partir de Jean 17. Réfléchir à ce que vous êtes, la nature de l'Église et sa vocation avec. Nous lisons, c'est une belle lecture là encore, des versets 6 à 24, mais je veux prendre le temps d'écouter ce que Jésus, l'Évangile, nous dit en tant qu'Église. Nous lisons. C'est suffisamment gros là, ça va ? J'ai dû découper les diapos pour. Parce que l'écran, il est un peu petit. Hein. Nous lisons. Je t'ai fait connaître aux hommes. C'est Jésus qui parle. Hein. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il parle de l'être trinitaire, là, hein, vous comprenez, on y reviendra. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il parle de Judas, vous le savez. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Et je finis quelques lignes encore. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles, des disciples qui font des disciples, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On a un bel essentiel là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous prions. Père, nous venons de lire ta parole et la vérité. Elle est notre fondement, elle est notre source, elle est celle qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous redresse, qui nous exhorte, qui nous console, qui renouvelle notre intelligence, Seigneur, par ton Esprit Saint ce matin. Que tu puisses nous saisir, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses appliquer à nos cœurs cette parole de vérité qui est pour nous encore aujourd'hui en tant qu'Église dans ce monde que tu aimes et que tu n'abandonnes pas. Merci pour ta présence. Merci pour ton Église. Merci pour l'Esprit Saint. Amen. Paul, je n'ai pas regardé le début. Tu m'as dit 35 minutes, c'était à quelle heure ? Non, mais aide-moi, aide-moi. Non, hein ? Il ne faut pas perdre de temps. Bon, je n'ai pas regardé le début. La première marque de l'Église dans le monde. Une communauté gardée. Ces marques, je vais les sortir du texte. Je me repose sur ce texte de Jean 17. Vous pourrez y revenir et relire cet ensemble des versets chapitre 14 à 17. Il y a une unité là qui est très importante. Cette première marque de l'Église dans le monde, une communauté gardée, préservée. Et là, à chaque fois, il y a une invitation pour chaque marque, pour vous, Église, une invitation à la paix. Jésus, dans ce texte, c'est son discours d'adieu, vous le connaissez ce texte. Il est là pour rassurer ses disciples, il va partir et il leur dit que s'il les quitte, il ne les abandonne pas. Après avoir accompli sa mission et être allé rejoindre le Père, il parle par anticipation, il continuera, il le promet, à les garder, ceux qui à leur suite garderont sa parole. De génération en génération, jusqu'à aujourd'hui à Nîmes, il continuera à les garder au sein d'un monde hostile, pour qu'aucun d'eux ne se perde. Il ne nous ment pas, il n'y a pas de fausses promesses, tout est annoncé. Oui, vous êtes en exil dans un monde hostile, mais il y a cette promesse que Jésus le sait et qu'il l'a vécu avant vous et qu'il sera avec vous pour être témoin dans ce monde-là. Il les consacrera, je reprends quelques termes clés de notre texte. Il les consacrera, il les mettra à part et pourtant les enverra dans cette réalité hostile que Jésus a aimée et pour laquelle il est mort sur la croix. Il les tiendra fidèles dans leur mission, à sa suite comme lui a été fidèle à sa mission. Ne craignons donc pas. Le Maître, c'est le propos, a été vainqueur avant nous. Il est avec nous, il connaît la nature du monde et des tempêtes que nous vivons, il sait, il les a vécues dans sa chair, il connaît l'adversité à laquelle nous sommes soumis. Il connaît, lui, le maître de l'histoire, le temps de l'histoire que nous vivons, le cœur tranquille, soyons en paix, poursuivons notre pèlerinage sur cette terre et notre mission dans la paix, une paix joyeuse, une paix complète, une joie complète. Verset 13. Et Jésus nous assure de sa présence constante et de son soin. Et il nous envoie, et c'est la suite de l'histoire, peu de temps après, dans l'histoire, un consolateur, le consolateur. Nous avons parlé de consolation. Il s'agit du Saint-Esprit et un guide pour que nous ne soyons jamais seuls ou désarmés ou décontenancés ou surpris que le monde soit monde, mais que nous nous tenions debout dans ce monde-là. Face aux défis qui se présentent. J'évoquais là rapidement jeudi et dans cette introduction, effectivement, parce que je crois que c'était, sans dramatiser, bien au contraire, vous allez comprendre pourquoi, cet événement de la cérémonie des Jeux Olympiques. Beaucoup de croyants, le CNEF, 15 ans d'existence, n'avait jamais reçu autant de témoignages de chrétiens secoués. Et j'y ai été très attentif, pour ma part, parce qu'il y a quelque chose là qui était atteint, qui était secoué, et par là peut-être fragilisé, au fond. Mais si ça pouvait servir d'électrochoc à l'Église pour comprendre que le monde est monde et qu'il ne faut pas s'en étonner, et que l'Église a fait son travail d'Église sans avoir peur et sans se retirer ou se situer en surplomb, mais en allant dans ce monde-là. Dans ce communiqué du CNEF, vous allez voir ce que j'ai dit, parce que je vais tirer le fil maintenant de ce communiqué finalement. Après, voilà quelques lignes où j'ai rejoint ce qui était ressenti, ce qu'on a tous vécu au fond. L'image d'une société qui s'est paganisée, avec, vous vous souvenez, cette image de la scène, et puis le dieu Pan, etc. etc. J'écrivais, voilà quelques mots. « Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre affliction face à ce qui s'est joué lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Nombreux sont ceux en France et au-delà, parce qu'on a eu plein de témoignages à l'international d'alliances évangéliques sœurs à avoir exprimé le sentiment d'une blessure profonde. » Notamment parce qu'elle a été perçue comme une parodie humiliante de la scène ou la mise en avant d'une propagande idéologique clivante. Le CNEF s'est fait le porte-parole de ses sentiments, etc., etc., etc. Voilà, quelques paragraphes plus tard, je disais cela. Et c'est de cela dont nous allons maintenant parler à partir de Jean 17. Même si notre espérance est tendue vers le royaume qui vient, ne nous étonnons pas que la société qui nous entoure ne soit pas chrétienne. On a parlé de tout ça pendant deux soirs. Et je sais que c'est compliqué, on peut en discuter. Mais écoutons ce que nous dit Jésus quant à la nature du monde surtout. L'apôtre Pierre, on en a parlé jeudi, nous exhorte à vivre notre condition chrétienne comme étant des gens de passage sur terre. Et Jésus lui-même prévient ses disciples. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais c'est précisément dans ce monde-là, marqué par le paganisme comme il y a 2000 ans, vous reconnaissez un peu le propos que je tiens depuis trois jours, hein, que nous sommes appelés à être ses témoins en parole et en acte. Je vous ai invité à relire les trois chapitres, 14 à 17, entre 14, 15, 16, 17, 4, 14 à 17, mais vous pourrez relire tout l'évangile de Jean. C'est un motif récurrent et c'est la structure même de cet évangile. Jésus reçoit une mission, une charge de la part de son Père. Ça revient en permanence jusqu'à ce chapitre. Jésus le répète à maintes reprises dans le récit afin de souligner qu'il ne s'est pas investi lui-même de cette mission, mais qu'il est envoyé par le Père. Chapitre 4, au chapitre 9 notamment. Et cette mission, elle comporte plusieurs facettes, mais vise fondamentalement à révéler qui est Dieu par ses paroles et ses actes, être glorifié et glorifier le Père. Voilà le sens de la venue de Jésus. Et très rapidement, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, où on reparcourt cet évangile rapidement, Jésus va effectivement faire face à cette adversité. Et cette adversité, de toutes sortes d'adversaires, elle va aller croissante. Et le récit va avec un suspense croissant. De plus en plus, Jésus s'en prend plein le visage, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Différentes sortes d'obstacles se dressent sur sa route. Autant d'opposition de la part des représentants de ce monde, hein, ce terme de monde-là qui est beaucoup repris avec différentes compréhensions, on va le voir tout à l'heure, parcourt cet évangile, le monde incroyant qui entre en résistance face à l'envoyé du Père. Les prêtres et les pharisiens, les juifs, le monde, Judas, le diable et Pilate s'affaireront tour à tour et de manière de plus en plus forte et coalisée pour tenter de détruire l'envoyé de Dieu. Jésus est mis en procès par ce monde adverse, pour tenter de détruire, oui. Mis en procès, Jésus est accusé tour à tour d'être quoi ? On l'accuse d'être un faux prophète qui est là pour conduire le peuple à sa perte, d'être un blasphémateur, un ennemi de la nation juive. Et le conflit va s'intensifier, vous le comprenez, au fil de la narration jusqu'au sommet du récit, le climax, comme on dit en cinéma, la croix de Golgotha. déchaînement à ce moment-là de l'histoire des forces du mal, défaite apparente. Satan semble avoir remporté la victoire, avoir vaincu, terrassé l'envoyé de Dieu. Il se réjouit. Et pourtant, élevé sur cette croix. Et je crois que ça rejoint, je ne l'ai pas prévu comme tel, mais peut-être ce que tu as partagé il y a deux dimanches, Paul, quoi, peut-être le dimanche dernier, je ne sais plus quoi. Élevé sur cette croix, avant de rendre l'esprit, l'envoyé du Père annonce étrangement que sa mission vient de s'accomplir. On va partager la scène dans un instant, que nous nous rappelions le sens de sa venue et le sens de l'histoire et ce qui s'est joué à ce moment-là. Vous savez, alors je n'avais pas prévu de le dire, mais peut-être que ça peut vous aider pédagogiquement. Vous connaissez l'histoire du chaperon rouge. Tu as un petit quelque chose à boire, là, comme les jours d'avant, là, ça m'aidera. Vous connaissez un peu l'histoire du chaperon rouge? Merci. Celle des frères Grimm, la version des frères Grimm, c'est comme ça qu'on dit. Le chaperon rouge, en fait, l'évangile de Jean, il est construit un peu comme le chaperon rouge. Et comme pratiquement toutes les histoires dans... toutes les narrations. Mais l'évangile de Jean, il y a un certain nombre de spécialistes du monde, entre guillemets, justement, qui étudient et qui disent, j'ai lu un certain nombre d'articles là-dessus, que la narration de l'évangile de Jean relève du génie. Je vais m'expliquer. Le chaperon rouge, c'est l'histoire comme toutes les histoires, où au début, il y a une mission, puis il y a des complications, puis à la fin, il y a une résolution. Et puis, il y a une morale, souvent, qui en découle. Le chaperon rouge, c'est quoi ? L'histoire. Ah, merci de suivre, j'oublie toujours, vous êtes super. Voilà, il y a ce chaperon rouge, il reçoit la mission d'aller apporter, il apporte quoi à la grand-mère, j'ai oublié. Une galette et du beurre. Voilà, ça c'est la mission. Alors elle y va, et puis en chemin, elle rencontre une complication sur la gauche, le loup, un peu séducteur au début, etc. Et puis on voit qu'il monte un peu les crocs après, et puis il va la manger tout cru, et puis la grand-mère avec. Puis la résolution, c'est quoi ? Le chasseur arrive, et puis délivre, etc. Et la morale, il y a une morale, on ne va pas développer tout ça. Dans l'évangile de Jean, il y a des loups, effectivement. Jésus est l'envoyé du Père. Et on va redire tout ce qu'il y a des complications, il y a des acteurs, il y a de l'adversité, et ça monte, et il y a de la narration, et du suspense, jusqu'à un climax. Et le génie de la narration de Jean, c'est précisément ça. C'est ce twist, je reprends encore le vocabulaire du cinéma, c'est ce twist qui s'opère sur cette croix de Golgotha, où les forces du mal semblent, les loups semblent avoir vaincu. Dieu transforme le mal en bien. Et c'est toute l'ironie. Le retournement inouï de cette situation, en parvenant à mettre Jésus à mort, un verdict de mort est posé sur lui. C'est du haut de cette croix que Jésus révèle sa gloire, ce thème de la gloire qui revient dans notre chapitre. Et c'est d'elle qu'il déverse maintenant sa vie sur les hommes et délivre un verdict de vie. À Golgotha, sur ce trône paradoxal, Jésus accomplit sa mission. Tout est accompli. Le climax de l'opposition est la clé de la résolution, de l'intrigue, de l'histoire. Et la morale, c'est quoi ? Je la fais courte, il faut que je passe au deuxième point, sinon c'est catastrophique mon temps là. C'est quoi la morale de l'histoire ? Mais c'est vraiment le propos, ce que Jésus est en train de dire, et l'auteur inspiré met en scène, c'est une vraie histoire, mais c'est une mise en scène, c'est de nous dire, les amis, et Jésus nous le dit dans ce texte-là, vous êtes appelés à ma suite. Vous prenez votre croix et dans ce monde hostile que j'ai aimé jusqu'à en mourir, vous êtes appelés de la même manière à aller dans ce monde-là. N'ayez pas peur, je vous ai averti. Ne soyez pas surpris des forces du mal. Je les ai vaincus. Allez-y et aimez dans ce monde où vous êtes envoyé en exil. À vous, sa suite, dans ses pas. Deuxième point, deuxième marque de l'Église dans le monde. Une communauté unie. C'est à ce moment-là de l'histoire que je vais boire quand même. Une invitation là à la communion. Paul, rappelle-moi votre vision là, qui est, c'est une famille où la vie jaillit en abondance.
Famille en Christ.
Ben oui.
Où sa vie jaillit en abondance.
Une famille en crise, toute sa vie jaillit en abondance. Bon, moi, je veux vous parler de ça, en fait. Et ce deuxième point, c'est la dimension de famille, de communion. L'Église, ce n'est pas juste une mission, ce n'est pas juste être envoyé dans le monde. L'Église, c'est d'abord la famille de Dieu. C'est le peuple, la colonne de la vérité, le peuple de l'Esprit, le visage de la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer au milieu de vous en vue de l'éternité. Je vais y revenir dans un instant. Peut-être connaissez-vous cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu traverser l'océan Pacifique en bateau, mais qui, suite à une tempête, donc mission, complication, je ne sais pas quelle était sa mission, mais en tout cas, voilà, opposition, il va échouer sur une île déserte. Cet homme, voilà, une sorte de Robinson Crusoe, reste quelques années sur cette île, seul, jusqu'au jour où, par miracle, un bateau arrive. C'est la résolution, par là. L'équipage sort du bateau, tout étonné de voir cet homme, évidemment, et encore plus étonné de voir le fait que là se dressent trois tentes côte à côte. Alors, il demande à cet homme, pourquoi tu es seul, pourquoi il y a trois tentes ici? Et l'homme, d'abord, montre la première, et il dit, ça, c'est chez moi. Ok, et alors les deux autres, c'est pour qui? C'est chez qui? Demande l'équipage. Oh, celle-ci à côté, c'est mon église. Et celle d'à côté, la troisième tente, c'est l'église où j'allais avant. Nous parlons là d'unité. Ce texte nous parle d'unité. De l'Église une, Paul a dit ce terme que j'affectionne tout particulièrement. L'Église est une à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de la France, à l'échelle de Nîmes. Quand Dieu regarde Nîmes, il ne voit pas des individus éclatés, il ne voit pas quelques églises locales sans lien, il voit son Église à Nîmes. Il voit son Église en France et c'est son grand projet, l'Église. En vue de l'éternité. Cette dimension d'unité, elle est précieuse dans le cœur de Dieu parce que c'est son désir, quand je parle de projet, son désir rédempteur de réconcilier l'humanité. Cette humanité qui a été fracturée par le péché. La dimension de réconciliation dans l'Évangile, c'est entre Dieu et les hommes, fondamentalement, premièrement, mais pour une réconciliation entre les hommes et les femmes, que le mur de séparation tombe dans cette église maintenant où il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre. Le visage de cette nouvelle humanité, faite de pardon, de réconciliation, de service, la capacité que nous devrions avoir de regarder notre frère, notre sœur, de pleurer avec lui, comme on l'a fait, de regarder son intérêt, comme Paul nous dit, comme étant supérieur au nôtre propre. Cette communauté multiculturelle, multigénérationnelle, il n'y a nulle part ailleurs où on voit ça, le visage de cette humanité réconciliée. Ça, c'est le projet de Dieu. Pourquoi je mets le paquet là-dessus, que ce soit à l'échelle globale, mais soyons modestes ce matin, parlons de votre réalité locale. Vous êtes une famille et c'est une fin en soi. Je m'explique. Dans ce texte, on voit que cette unité, cette dimension de famille, le lieu de la résidence de la Trinité divine, c'est afin que le monde croit. C'est comme un peu par débordement. Ça peut être une conséquence, c'est très bien. Ce à quoi je résiste, et parfois je m'emporte là-dessus, c'est quand on considère l'Église comme un instrument, comme un moyen pour son ressourcement perso. Je viens à l'Église parce que ça me fait du bien. Je vais choper mon shot de louange. Ou je viens à l'Église parce que c'est le moyen pour atteindre le monde. C'est vrai aussi. Les deux sont vrais aussi. Mais l'Église, fondamentalement, dans le cœur de Dieu. Et c'est tout le projet de Dieu dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament déjà, de se rassembler un peuple. Et dans le Nouveau Testament avec, en vue de l'éternité. Nous serons cette humanité réconciliée, au cœur de laquelle résidera Dieu. Considérez votre Église comme un bien, comme quelque chose de précieux que Dieu aime en tant qu'Église. Aimez l'Église parce que Dieu l'aime profondément. Le temps passe, Je vous invite peut-être simplement, si quand vous retravaillerez ce texte, j'en suis convaincu que vous allez le faire, c'est sûr. Les versets 20 à 23, pour aider à comprendre le mystère de l'Église, de cette famille que vous formez en Christ. Jésus nous aide à comprendre que la beauté et la spécificité de nos relations est liée aux relations qui sont dans l'être trinitaire. Là, il y a un mystère à contempler. Dans votre adoration, vous contemplez un Dieu mystérieusement en trois personnes qui communie de toute éternité dans cette beauté de relation. Et ce que dit Jésus là, c'est que l'Église est le reflet de cela. Dans la qualité de votre relation, la manière dont vous faites famille, vous êtes le reflet de l'être trinitaire, de la communion trinitaire. Et la gloire dont je vais parler, ce sera la quatrième marque, elle repose sur cette spécificité d'être une famille en Christ. Quand tu regardes ton frère, ta sœur, j'essaye de le faire de temps en temps, ça déplace les choses. Bien sûr, tu as un humain en face, et c'est bien et beau de se considérer dans notre humanité. Mais voyez que votre relation, elle est médiatisée par le Christ. C'est un frère ou une sœur en Christ. Et quand vous êtes plusieurs, il y a quelque chose de l'être trinitaire qui réside et qui siège et qui permet à ceux qui viennent de toucher quelque chose de l'être de Dieu. La communion qui vous rassemble, reflet de l'être trinitaire, c'est le projet de Dieu et c'est le moyen qu'il a aussi avec de faire toucher du doigt Dieu à ceux et celles qui viennent et vont vous voir vivre afin que le monde croie. Vraiment, j'ai plus de repères de temps, Paul. Tu aurais dû me dire une heure. Je ne sais plus. Troisième marque de l'Église. Dans le monde, une communauté. Ouais, il y a la troisième. Troisième. Voilà. Une communauté envoyée. C'est toute la dynamique de ce texte, évidemment. Et là, c'est une invitation à l'ouverture et à l'action. Ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit dans les premières soirées. Tout ça est à tenir ensemble. Si l'accent du point de la marque précédente reposait sur la dimension spécifique de la communion chrétienne et de l'Église comme famille, hein, et garder cette spécificité, la nature de l'amour qui vous lie est autre chose que la nature du lien familial que vous avez dans votre famille de chair ou dans tous les lieux de socialité, habilité, etc. Gardez ça. Mais Jésus nous dit en même temps que cette spécificité, cet amour spécifique ne doit pas se transformer en entreprise sectaire, mais c'est une invitation où demeurez, voilà, que vous gardiez un peu avec orgueil peut-être même, vous gardiez à l'écart. Mais si elle n'est pas du monde, cette Église, autre chose que le monde, elle est une communauté envoyée dans le monde, tout comme le Fils a été envoyé par le Père dans le monde. Et là, ce texte-là, il faut le retravailler, les amis, hein, parce qu'il est d'une densité. Il faut comprendre que l'auteur inspiré, il jongle avec les mots. Hein, c'est de la haute voltige. Et là-dedans, la définition du mot « monde », ça change d'un verset à l'autre. Et si vous ne comprenez pas ça, alors il y a des paradoxes, mais c'est fait exprès pour vous déplacer, vous mettre un peu en difficulté, pour vous permettre de vous arrêter et de creuser. Je vais peut-être vous aider en vous donnant quatre définitions qu'on trouve du monde dans l'évangile de Jean. Ça vous aidera. Il a plusieurs significations, incluant tour à tour la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, le cosmos, la société humaine, et trois, le système corrompu opposé à Dieu, ce monde qui a voulu mettre à mal et à mort l'envoyé du Père. Et en tant que croyant, on doit discerner ces différentes acceptions pour trouver une juste posture et ne pas caricaturer notre manière d'être en tant qu'Église et croyant face au monde et dans le monde. Premièrement, je décris la première acception, le cosmos, le monde créé. Ce monde est le monde de Dieu, il a de la valeur et il ne l'abandonne pas. Et un jour, il reviendra bientôt pour rétablir toute chose nouvelle, restaurer et faire toute chose à neuf, une nouvelle création, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Sa création, il ne la balaye pas, il ne l'oublie pas. Il y a quelque chose de beau. Et ce monde créé dans l'évangile de Jean nous rappelle en même temps l'origine et l'identité de Jésus, qui possède la gloire et l'amour du Père avant que le monde, avant la création. C'est en Jean 17, quand on a lu « Parce que tu m'as aimé avant la création du monde ». C'est de ce monde-là dont il s'agit. Puis, la deuxième acception intéressante, c'est le monde plus spécifiquement planète. C'est notre Terre, c'est le monde des vivants. On a parlé de deuil tout à l'heure et de séparation. Le monde des vivants, la terre des vivants. Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, envoyé par le Père, est venu habiter la terre des vivants. Il s'est incarné, il est devenu un homme comme nous. Avant de quitter la terre des vivants pour retourner la planète, hein, à l'ascension, pour retourner auprès du Père. Ça, c'est super, super important et très, très, très touchant. Je fais une petite parenthèse que j'aimerais, pas trop longue, j'espère, mais réalisez ça, moi, je le dis souvent, dans votre prière, quand vous vous adressez à Dieu, essayez de vous représenter que sur le trône de Dieu siège un homme. Hein, on connaît ce... Ça te dit quelque chose, Paul ? Jésus, est-ce que vous le réalisez ? Moi, je ne le réalise pas rarement, en vrai. Jésus quittant la terre des vivants, le monde planète, allant auprès du Père, comme dans ce texte, il l'annonce, il ne quitte pas son humanité. Vous le savez, ça ? Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde, ce sera le troisième point, qu'il a assumé notre humanité, qu'il l'a honoré, qu'il l'ait ressuscité dans un corps glorieux et que dans cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux, nous ressusciterons dans de nouveaux corps et nous retrouverons ce que nous avons perdu. La troisième acception, c'est très proche maintenant, c'est le monde humanité qui comprend tous les hommes et toutes les femmes auxquelles Dieu a manifesté son amour. C'est Jean 3, on le connaît par cœur. Dieu a tant aimé le monde. Hein ? Le monde, là, c'est quoi ? C'est les humains. C'est pour eux qu'il est venu, c'est pour lui qu'il s'est offert. C'est à eux que s'adresse l'offre du salut, de la rédemption et l'espérance qui nous tient. À chaque personne, nous sommes tenus avec un cœur ouvert et une solidarité humaine d'aller vers eux et de leur dire « Mais comme toi, moi je suis pécheur, mais j'ai reconnu celui qui est dans son humanité en tant que Dieu homme, s'est donné pour toi. » Et enfin, et ça c'est important dans ce texte, c'est le monde hostile, le monde hostilité qui désigne l'humanité rebelle à Dieu. Cette fraction spécifique de l'humanité qui a choisi de se retrancher contre Dieu et formant un système corrompu qui est opposé à Dieu, le monde. Et ça, il faut comprendre. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce petit communiqué et dans cet enseignement. Ne nous étonnons pas que le monde est monde et qu'il demeure monde. Et ne prétendons pas en tant qu'Église vouloir vivre dans un monde que l'on dominerait d'une certaine manière ou qu'on assujettirait. Ce n'est pas notre mission. Ça, ce sera la mission du Fils quand il reviendra. Hein ? Le monde est monde et il nous prévient et il faut savoir que nous allons dans un monde vers un monde hostile qu'il a mis à mort et nous allons pour aimer ce monde qu'il a aimé à en mourir. Quatrième marque, et je finis là-dessus, une communauté glorieuse. Voilà. Bah, c'est une invitation à l'espérance. Paul l'a dit hein, tout à l'heure dans son propos très touchant. Nous sommes appelés dans ce texte à contempler la gloire du Père et du Fils et à prendre part d'une manière mystérieuse, là, dans notre rassemblement, comme lieu où réside l'être trinitaire et dont on est le reflet, à prendre part à cette gloire. Et Jésus dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Vous portez la gloire de Dieu. Là, je risque de partir en roue libre, Paul, mais j'ai deux idées qui me viennent. Je vais boire avant. Je le dis, c'est en roue libre parce que j'ai passé 4 jours avec vous, j'ai entendu un certain nombre de choses, j'ai observé, j'ai vécu. Je vous dis ce que je ressens à cœur de votre communauté. La première chose, ça ne concerne pas spécifiquement votre communauté, mais qui est liée parfois à la fragilité de ce que nous sommes, de nos petits rassemblements, de la minorité dans laquelle nous nous trouvons, du sentiment de peur dont j'ai parlé tout à l'heure et d'être tout petit face à l'adversité, etc. Et le sentiment d'être un peu misérable dans ce que nous sommes, dans les communautés que nous formons. Ce texte nous rappelle qu'effectivement nous sommes en minorité, qu'effectivement nous sommes petits, nous n'avons pas, il y a beaucoup de choses folles parmi nous, pas dans cette église spécifiquement, mais que nous sommes le réceptacle de la gloire de Dieu. Apprenez à vous regarder là où vous en êtes, et vous êtes une belle communauté, ce sera mon deuxième point, mais là où vous en êtes comme étant une belle famille, et la gloire de Dieu réside au milieu de vous. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Réalisez que vous êtes glorieux. C'est ce que Jésus nous dit, c'est comme ça qu'il nous regarde, et c'est comme ça qu'étonnamment que ceux qu'il envoie vers nous vont toucher du doigt et voir qu'il y a quelque chose là de glorieux au milieu de vous. Hein ? On a trop tendance, et en tant que Français parfois, à pratiquer l'autodérision, l'autocritique, etc. Dieu vous dit que vous êtes glorieux en Christ. Une famille en Christ où jaillit la vie en abondance. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, j'ai entendu, et je vous encourage, qu'il y a des projets de grandeur, dans le bon sens du terme, des projets d'agrandissement, des projets de rayonnement, un désir d'aller de l'avant en tant que communauté, que cette vie qui jaillit en abondance, elle déborde, et que cette salle s'agrandisse, et que de nombreuses personnes viennent augmenter cette vie communautaire et rencontrer Dieu. J'ai entendu, en parlant avec plusieurs, que pour ça et par là, il y a un désir d'excellence et de vivre. Je ne sais pas comment vous vivez vos cultes, mais en tout cas, ce matin, on a vécu quelque chose d'un peu exceptionnel, peut-être. Non ? Non, c'est tout le temps comme ça, le dimanche matin. Ce n'est pas comme ça dans toutes les églises. J'ai entendu, notamment dans la nouvelle génération, un désir d'excellence. Un désir que cette gloire qui est là, qui est palpable, eh bien, elle soit livrée dans un packaging qui soit adapté aux nouvelles générations, au niveau événementiel, au niveau communication, au niveau qualité de louange, au niveau de l'organisation, au niveau de la structure. J'ai entendu plein de trucs comme ça. J'aimerais juste vous dire que les deux se tiennent ensemble. Et votre vision, elle dit tout ça, donc creusez-la cette vision et mettez-la en œuvre. Une famille en Christ où la vie jaillit en abondance. Demeurez une famille. Ne vous prenez pas pour autre chose que l'Église en devenant une entreprise événementielle, de communication ou missionnelle. Demeurez cette vie parce que la gloire dont Jésus parle, elle procède de cette vie relationnelle. Donc demeurez là-dedans. Et ça se sent, c'est palpable. Creusez ça, ne l'abandonnez pas. Et en même temps, cette gloire que vous savez, que vous vivez, que vous devez reconnaître, plutôt que vous apitoyer, je ne dis pas que vous le faites, mais c'est le risque parfois, ça doit nous pousser vers l'excellence et réaliser que cette réalité-là, eh ben, on doit être à la hauteur dans le sens où faire des choses bien et à la hauteur de cette gloire, là où nous en sommes, mais en nous en donnant les moyens, avec tout ce que j'ai entendu de désir d'excellence, en termes, je reprends, d'événementiel, de communication, de louange, d'infrastructure, de projet, etc. Les deux ensemble, je le crois. Vous êtes Église CMLK, c'est comme ça qu'on dit, CMLK, une église bénie, franchement. Hein, je circule à droite, à gauche, vous avez un potentiel. Je ne dis pas ça à toutes les églises, pour de vrai. Un potentiel de dingue. La nouvelle génération, je l'ai rencontrée hier soir, vous avez des jeunes radicaux qui en veulent, qui ont de l'ambition, qui ont de l'envie, vous avez bien travaillé. Que cette église multigénérationnelle et que ce passage de flambeau se passe bien pour que l'église, votre église, demeure gardée dans ce monde corrompu, mais que Dieu aime, qu'elle demeure unie, qu'elle demeure... C'était quoi le troisième ? Envoyer, pas replier sur elle-même ou trop fière d'elle-même ou je ne sais quoi, envoyer et, c'est là vous pouvez tricher, il y a la pompe, et glorieuse, habitée par l'être trinitaire. Eh bien, je dis Amen.